12. Triomphe et défaite, tout gagné, tout perdu. Je partis en janvier 1888 et nous ne nous revîmes qu'au mois de septembre 1889. Mais dans cet intervalle de moins de 2 ans, nos vies à toutes deux avaient subi des crises décisives et nous nous retrouvâmes autres que nous nous étions quittés. L'intimité du passé devenait impossible. Chacune de nous, absorbée par son propre drame, ne voulait pas avouer à l'autre l'entière vérité sur ses luttes intérieures. La tâche que je me suis proposée étant de raconter tout ce que Sophie m'a dit sur elle-même, je me bornerai aussi à ne communiquer de cette dernière période de sa vie que ce que j'ai su par elle. Ce sera plus vague et moins explicite que le reste, parce qu'elle ne me laissait plus lire dans son âme comme autrefois. Peu après mon départ, elle fit la connaissance d'un homme qu'elle disait être la personnalité la plus géniale qu'elle eût jamais connue. Dès leur première rencontre, elle ressentit pour lui une grande sympathie et une grande admiration, et peu à peu ses sentiments se transformèrent en un amour passionné. Lui, de son côté, éprouvait une vive admiration pour elle et lui demanda même d'être sa femme. Mais elle crut sentir plus d'admiration que d'amour et refusa de l'épouser, se proposant de mettre toute l'énergie de son âme à conquérir un amour qui fût l'égal du sien. Cette lutte avait été l'histoire de sa vie pendant nos 2 années de séparation. Elle tourmenta son ami de ses exigences, lui fit souvent des scènes de jalousie. Ils se quittèrent bien des fois avec amertume, Sophie brisée de désespoir, puis ils se retrouvaient, se réconciliaient, pour se séparer violemment de nouveau. Les lettres de Sophie disent peu de choses de sa vie intime. Réservée de nature, surtout lorsqu'il s'agissait de sentiments profonds, et particulièrement de ses chagrins, elle n'arrivait à la confiance que sous l'influence de rapports personnels. Ce ne fut donc qu'après mon retour en Suède que j'appris quelque chose. Je donnerai quelques extraits des passages les plus caractéristiques de ses lettres de cette époque. En janvier 1888, peu après mon départ, elle écrit « Ton histoire avec eux », elle fait allusion à un événement survenu dans la société de Stockholm, m'a fait penser qu'aussitôt libre, je reprendrai mon premier-né, le privat docent. En le remaniant complètement, je crois que j'en puis faire quelque chose d'excellent. Je me sens vraiment un peu fier d'avoir, encore si jeune, aussi bien compris certains côtés de la nature humaine. En analysant maintenant les sentiments de E vis-à-vis de G, je crois avoir très bien décrit les rapports entre un privat docent et son professeur. Et quelle excellente occasion pour prêcher le socialisme. Et quelle excellente occasion pour développer cette thèse qu'un État démocratique, mais non pas socialiste, est la plus grande horreur que l'on puisse rencontrer. Et plus tard, elle écrit « Merci pour ta lettre de Dresde. Je suis toujours extrêmement heureuse chaque fois que je reçois quelques lignes de toi, bien que, à proprement parler, ta lettre m'ait produit une impression très mélancolique. Qu'y faire ? Ainsi va la vie. On n'obtient jamais ce que l'on veut et ce dont on croit avoir besoin. Tout, mais pas cela. Quelque autre aura le bonheur que je convoite et auquel il n'aura jamais pensé. Le service de table du grand festin de la vie doit être mal fait, car tous les convives semblent, par négligence, recevoir les portions destinées à d'autres. En tout cas, N a reçu celle qu'il souhaitait. Il est enthousiasmé de son voyage au Groenland et rien ne pourrait rivaliser à ses yeux avec ce projet. Tu feras donc bien de renoncer à l'idée de génie de lui écrire, car j'ai peur, vois-tu, que même avec la complicité de « tu n'empêches sa visite aux âmes des grands hommes » qui, suivant la légende lapone, plane au-dessus des plaines de glace groenlandaises. Pour ma part, je travaille tant que je peux pour le concours du prix Bordin, mais sans plaisir et sans enthousiasme. Sophie avait depuis peu fait la connaissance de Fridtjof Nansen pendant la visite de celui-ci à Stockholm, et sa personnalité, autant que son audacieux projet de voyage, lui avait fait impression. Ils ne s'étaient rencontrés qu'une fois, mais l'impression mutuelle avait été si vive que tous les deux, plus tard, tinrent pour probable que cette sympathie se serait développée pour eux en un sentiment plus vif si rien n'était venu à la traverse. Dans la lettre suivante, aussi de janvier 1888, elle écrit encore Je suis pour le moment sous l'impression de la lecture la plus entraînante que j'ai jamais faite. J'ai reçu aujourd'hui un petit article de Nansen avec l'exposé de son voyage projeté à travers les plaines de glace du Groenland. J'en ai été tout à fait frappé. Il a reçu maintenant de Gommel, grand négociant danois, une avance de 5000 C pour ce voyage, de sorte qu'il n'y a pas de puissance terrestre qui puisse l'arrêter. L'article est du reste si intéressant et si bien écrit que je te l'enverrai aussitôt que je serai sûr de ton adresse, naturellement à condition de me le renvoyer immédiatement. Lorsqu'on a lu ce petit article, on peut, dans une certaine mesure, se représenter l'homme. J'ai aussi causé de lui avec B. Celui-ci prétend que les travaux de Nansen sont remplis de génie et le trouve aussi trop remarquable pour aller ainsi risquer sa vie au Groenland. Dans la lettre suivante, on reconnaît déjà les premiers indices de la crise qui allait maintenant envahir sa vie. La lettre n'est pas datée, mais a dû être écrite en mars de la même année. Elle avait appris à connaître l'homme dont l'influence devait être décisive sur le restant de sa vie. Elle écrit « Tu me fais aussi d'autres questions, mais je ne veux pas me les poser à moi-même, c'est pourquoi tu m'excuseras de les laisser sans réponse. J'ai peur de faire de nouveaux projets. La seule chose, hélas, qui soit sûre, c'est que je vais rester maintenant seul à Stockholm pendant deux longs et interminables mois. Mais il faut peut-être mieux que je comprenne clairement combien je suis vraiment seul. » Je lui avais raconté qu'à Rome, des Scandinaves m'avaient assuré que Nansen était fiancé depuis plusieurs années. Elle répond gaiement, bientôt après, « Chère Anne-Charlotte, souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Si j'avais reçu ta lettre, avec la terrible nouvelle qu'elle renferme quelques semaines plus tôt, elle m'aurait certainement brisé le cœur. Mais maintenant, je dois avouer à ma propre honte qu'après avoir lu hier tes lignes profondément sympathiques, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire. Hier a été en général une rude journée pour moi, car le gros M est parti dans la soirée. J'espère que quelqu'un de la famille t'aura écrit les changements survenus dans nos projets. Il est donc inutile d'en parler aujourd'hui. Du reste, je ne puis nier que ces changements me soient personnellement favorables, car si le gros M était resté, je ne sais pas comment j'aurais pu travailler. Il est si grand, si puissamment taillé, selon l'heureuse expression de K dans son discours, qu'il arrive à prendre terriblement de place, non seulement sur un canapé, mais encore dans la pensée, et je n'aurais jamais pu, en sa présence, penser à autre chose qu'à lui. Bien que pendant les 10 jours de son séjour à Stockholm, nous ayons été constamment ensemble, la plupart du temps en tête à tête, et que nous n'ayons parlé d'autre chose que de nous-mêmes, avec une franchise dont tu n'as jamais vu l'égal, je suis cependant hors d'état d'analyser mes sentiments pour lui. Les charmants vers de Musset rendront l'impression qu'il me fait. Il est joyeux et pourtant très maussade, détestable voisin, excellent camarade, extrêmement futile et pourtant très posé, indignement naïf et pourtant très blasé, horriblement sincère et pourtant très rusé. Un véritable russe par-dessus le marché. Il est certain qu'il a, dans son petit doigt, plus d'esprit et d'originalité qu'on en extrairait de nous deux ensemble, même au moyen d'une presse hydraulique. La suite de la lettre parle d'un projet de voyage pour l'été suivant, qui ne fut cependant jamais réalisé. C'est pourquoi je n'en cite que les passages principaux. Je doute que j'aille à Bologne pour les fêtes du jubilé, pour lesquelles il avait été question de faire le voyage, en partie parce que cela coûte très cher à cause des toilettes, etc., en partie aussi parce que ces solennités sont ennuyeuses et pas du tout de mon goût. Il est important aussi pour moi d'aller à Paris, quand ce ne serait que pour peu de temps. Du 15 mai au 15 juin, je compte donc me trouver à Paris et ensuite aller te rejoindre en Italie avec le gros M, car il est convenu que nous y passerons l'été ensemble. Ceci est l'essentiel. Quant à l'endroit, ce détail est secondaire et m'intéresse moins. Pour ma part, je proposerai les lacs italiens ou le Tyrol. M accepte le projet, mais il aurait préféré nous décider à faire avec lui le voyage du Caucase en passant par Constantinople. J'avoue que le projet est tentant, d'autant plus que selon M, ce voyage n'est pas du tout coûteux. Mais j'ai mes doutes à cet égard, et je crois que nous ferons sagement de nous en tenir au pays civilisé. Il y a encore une circonstance qui, à mes yeux, parle en faveur du premier projet. Je voudrais terriblement fixer sur le papier quelques-unes des fantaisies qui m'ont hanté cet été. Tu devrais aussi recommencer à travailler, après t'être reposé tous ces derniers mois, et cela n'est possible que si nous nous établissons dans quelque bel endroit pour y mener une vie tranquille, idyllique. Et jamais on n'est aussi tenté d'écrire un roman qu'en société du gros M, car malgré ses dimensions considérables, lesquelles du reste sont en rapport avec son type de boyard russe, c'est le héros de roman le plus accompli, d'un roman réaliste s'entend, que j'ai rencontré de ma vie. Je le crois de plus bon critique littéraire avec l'étincelle sacrée. Ces plans de réunion ne se réalisèrent pas. Sonia rencontra son nouvel ami russe à Londres à la fin du mois, puis, en été, alla trouver Weierstrass dans le Harz pour avoir son avis sur la rédaction définitive de son travail. Elle l'avait envoyé au printemps à l'Académie des sciences sous une forme inachevée, en demandant la permission de présenter un développement plus complet à la fin de l'année, au moment du concours. L'ardeur qu'elle avait mise à travailler pendant ces mois de printemps ressort des billets que je reçus à cette époque. L'un est écrit de Stockholm et adressé à mon frère et à moi. Nous étions alors ensemble en Italie. Mes chers amis, je ne parviens pas à vous écrire longuement, car je travaille tant que je peux, autant qu'il est possible à un être humain de travailler. Je ne sais si j'arriverai à temps avec ma dissertation. Je me heurte à une difficulté dont je ne suis pas encore sorti. Bientôt après, à la fin du mois, pendant son voyage à Londres, elle écrit les lignes suivantes. « Chère Anne-Charlotte, je suis à Hambourg, où j'attends le train qui doit m'emmener dans une demi-heure à Flessing pour aller de là à Londres. Tu n'as pas idée de la jouissance que j'éprouve à m'appartenir de nouveau, à reprendre possession de mes pensées, à ne plus être obligé, de force, à les concentrer sur un même sujet, comme j'ai dû le faire ces dernières semaines. » Pendant son séjour dans le Harz, elle se plaignit souvent de la contrainte imposée par le travail. Tout un groupe de jeunes mathématiciens s'était réuni là, autour du vieux vétéran Weierstrass. Mita Kleffler, l'italien Volterra, les allemands Gantor, Schwarz, Hurwitz, Hattner, etc. La conversation de tous ces représentants de la même science était naturellement d'un haut intérêt, et Sophie se lamentait de devoir s'isoler dans son travail, au lieu de jouir de la vie commune. Elle enviait ceux qui avaient le loisir d'écouter les choses spirituelles et intéressantes dont le maître vénéré animait sa conversation. En septembre, elle revint à Stockholm et vécut pendant le reste de l'automne dans un état d'excitation qui usa ses forces pour longtemps. L'année 1888 devait, comme elle l'avait prédit, lui apporter le comble du succès et du bonheur, mais aussi le germe des tristesses qui devait l'accabler dès le commencement de l'année suivante. La veille de Noël 1888, elle reçut en personne le prix Bortin à une séance solennelle de l'Académie des sciences, en présence de la plupart des savants les plus illustres de son temps. Cette distinction scientifique est non seulement une des plus grandes qu'une femme ait jamais reçue, mais encore une des plus hautes qu'un homme ait pu briguer. Note. Le sujet proposé par l'Académie pour le prix Bordin était la question suivante. Perfectionner en un point important la théorie du mouvement d'un corps solide. À ses côtés se trouvait celui dont la présence donnait à son âme et à son cœur la joie la plus complète. Ce qu'elle avait rêvé de bonheur dans la vie lui était donc largement départi. Son génie était reconnu et elle voyait un but à ce besoin de tendresse inhérent à sa nature. Mais comme cette princesse du conte, une méchante fée avait neutralisé les présents dont les autres fées l'avaient comblée. Sa vie reçut tout ce qu'elle désirait, mais avec des circonstances qui empoisonnèrent son bonheur. Ce fut au milieu du plus absorbant travail, devenu une question d'honneur pour elle, puisque tous ses amis mathématiciens savaient qu'elle concourait pour le prix Bortin, que sa vie intime entra dans une phase souhaitée depuis si longtemps. Elle vécut dans une lutte terrible entre ses aspirations de femme et ses aspirations de savante, pendant les derniers mois qui précédèrent l'envoi de sa dissertation. Physiquement, elle s'exténua complètement par un travail incessant. Moralement, elle fut brisée par cette lutte entre les deux tendances si profondes de sa nature, celle d'accomplir une grande œuvre intellectuelle et celle de s'absorber complètement dans un sentiment nouveau et puissant. Ce conflit est, jusqu'à un certain point, celui qui brise toutes les femmes qui ont une vocation personnelle. C'est peut-être l'objection la plus forte que l'on puisse faire contre cette disposition d'esprit chez une femme, car elle l'empêche de s'élever complètement jusqu'à l'idéal que les hommes cherchent dans leur amour. Pour Sophie, c'était un supplice de sentir son œuvre se placer entre elle et l'homme qui aurait voulu posséder exclusivement toutes ses pensées. Elle sentait confusément, sans qu'il en convînt, qu'il éprouvait un certain refroidissement en la voyant si absorbée par une ambition, considérée peut-être par lui comme un vain désir de gloire et de célébrité, et cela au moment même où la sympathie entre eux était la plus forte. D'ailleurs, ce genre de gloire ne rend jamais une femme bien désirable aux yeux d'un homme. Une cantatrice, une comédienne, qu'on couvre de couronnes, trouve souvent le chemin du cœur d'un homme grâce à ses triomphes, disait Sophie. Une belle femme admirée pour sa beauté dans un salon y réussit aussi. Mais une femme dont les yeux deviennent rouges à force d'étudier et dont le front se creuse de rides pour gagner un prix à l'Académie des sciences, comment peut-elle captiver l'imagination d'un homme? Elle se disait avec amertume qu'il était déraisonnable de ne pas sacrifier en ce moment son ambition ou sa vanité pour obtenir ce qui valait à ses yeux tous les succès de la terre. Et cependant, elle ne s'y décidait pas. Se retirer à la dernière heure, c'était donner une éclatante preuve d'incompétence. La force des circonstances, autant que sa propre nature, la poussait vers le but qu'elle s'était proposé. Si elle avait prévu que l'achèvement de son travail lui coûterait si cher au dernier moment, elle ne se serait pas laissée entraîner à une lutte pour le bonheur qui rendait la lutte pour son bonheur intime si rude. Elle vint cependant à Paris et reçut le prix. Elle fut l'héroïne du jour, allant de fête en fête, recevant et portant des toasts, entourée de visiteurs et d'intervieweurs. À peine avait-elle un moment à donner à l'ami qui était venu la rejoindre pour assister à son triomphe. Le bonheur de son cœur et le triomphe de son ambition furent également troublés. Son triste sort fut de recevoir de la vie ce qu'elle lui avait demandé, dans des circonstances qui changeaient pour elle la coupe de douceur en coupe d'amertume. Une complication, tenant au caractère de Sophie, vint encore tout aggraver. Son amour jaloux et tyrannique exigeait de celui qu'elle aimait un dévouement si absolu, une dépendance si complète, que ses exigences dépassaient peut-être la mesure de ce qu'un homme peut donner. D'autre part, elle ne pouvait se décider à quitter sa position, comme l'aurait voulu son ami, et à renoncer à son activité personnelle pour devenir tout simplement sa femme. Ainsi, dans l'impossibilité de mettre d'accord ces deux tendances opposées, ce fut son amour qui fit naufrage. Elle rencontra à Paris, à cette époque, un de ses cousins qu'elle n'avait pas revu depuis ses années de jeunesse. Il possédait de grandes terres dans l'intérieur de la Russie et y vivait d'une heureuse vie de famille avec une femme qu'il aimait et toute une bande d'enfants. Dans sa jeunesse, il avait eu de certaines velléités artistiques, abandonnées depuis, et quand il vit Sophie, jadis sa confidente, fêtée comme l'héroïne du jour, dans ce Paris où un triomphe personnel est plus enivrant qu'ailleurs, un certain regret sur l'inutilité de sa propre vie s'éleva en lui. Elle avait conquis tout ce qui avait fait son rêve, mais lui, il était resté un insignifiant propriétaire et un heureux père de famille. Sophie, de son côté, considérant ce beau visage encore jeune, avec son expression calme et harmonieuse, entendant surtout son cousin parler de sa femme et de leur heureuse union, se disait « Lui a trouvé le bonheur. Il ne se dévore pas en lutte compliquée, mais prend la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire tout simplement. » Elle se proposait d'écrire une nouvelle sur cette rencontre et sur cette situation, et m'en parla. Je regrette fort qu'elle ne l'ait pas fait. elle y aurait défini sa philosophie personnelle. Une lettre à mon frère de cette époque montre combien elle se sentait déchirée. Paris, janvier 1889. Cher Gusta, je reçois à l'instant votre amicale lettre. Combien je vous suis reconnaissante pour votre amitié. Oui, je crois vraiment que c'est le seul bien que m'ait donné la vie. Ah, combien je suis honteuse de faire si peu pour vous prouver à quel point je l'apprécie. Mais ne m'en veuillez pas, cher Gusta, si je me possède si peu en ce moment. Je reçois de tous côtés des lettres de félicitations, et par une étrange ironie du sort, je ne me suis jamais sentie si malheureuse. Malheureuse comme un chien. Non, j'espère pour les chiens qu'ils ne sont pas malheureux comme les hommes, et surtout comme les femmes peuvent l'être. Mais je deviendrai peut-être plus raisonnable petit à petit. Au moins ferai-je mon possible pour cela. Je recommencerai à travailler et à m'intéresser aux choses pratiques, et naturellement, je me laisserai entièrement guider par vos conseils et ferai tout ce que vous voudrez. Pour le moment, tout ce que je puis faire, c'est de garder mes chagrins pour moi, de me surveiller, pour ne pas commettre quelques bévues en société et pour ne pas faire parler de moi. J'ai été très invité toute la semaine, chez Bertrand, chez Menabrea, chez le comte Löwenhaupt, avec le prince Eugène, etc. Mais je suis trop démonté aujourd'hui pour vous décrire tous ces dîners. Je tâcherai de le faire une autre fois. Quand je rentre chez moi, je ne fais pas autre chose que marcher de long en large dans ma chambre. Je n'ai ni appétit ni sommeil, et tout mon système nerveux est dans un triste état. Pour le moment, je ne sais pas si cela vaut la peine de m'occuper de demander un congé. Je me déciderai probablement la semaine prochaine. Adieu pour aujourd'hui, mon bien cher Gusta. Gardez-moi votre amitié. J'en ai grand besoin, je vous assure. Embrassez Foufi pour moi et remerciez S du soin qu'elle en prend. Elle se décida à demander un congé pour le semestre de printemps et resta à Paris, d'où elle m'écrivit en avril en français. Laisse-moi d'abord te féliciter du grand bonheur qui t'arrive. Heureuse fille du soleil que tu es. Avoir trouvé, à ton âge, un amour si grand, si profond, si réciproque, est une destinée digne d'un Glückskind comme toi. Mais c'était chose prévue, que de nous deux, c'est toi qui serais le bonheur, tandis que je suis et resterai sans doute la lutte. C'est singulier. Plus je vis, plus je me sens dominé par le sentiment de la fatalité, ou pour mieux dire, du déterminisme. Le sentiment de la libre volonté, qu'on prétend être inné dans l'homme, m'échappe de plus en plus. Je sens physiquement que, quoi que je veuille, quoi que je fasse, je ne puis changer un iota à mon sort. Maintenant, je suis presque résigné. Je travaille parce que je sens le besoin de travailler, mais je n'espère rien et je ne désire plus rien. Tu ne saurais imaginer combien je suis indifférente à tout. Mais assez de moi, parlons d'autre chose. Je suis contente de ce que tu penses de mon récit polonais. Je n'ai pas besoin de te dire combien je serais ravie si tu le traduisais en suédois. Je me reprocherais seulement de te prendre un temps que tu pourrais employer beaucoup mieux. J'ai aussi écrit un long récit sur mon enfance, sur la jeunesse de ma sœur et ses premiers débuts littéraires et sur notre intimité avec Dostoïevski. Pour le moment, j'ai repris Ve Victis, que tu te rappelles peut-être. J'ai encore un autre roman en tête, Les Revenants, qui m'occupe aussi beaucoup. Je voudrais bien que tu me donnes la permission de disposer à mon gré de notre enfant en commun quand la mort n'existera plus. De tous nos enfants, c'est mon préféré, et j'ai beaucoup pensé à lui ces derniers temps. Je lui ai même trouvé un cadre remarquable, l'Institut Pasteur, que j'ai eu l'occasion de visiter. Depuis quelques semaines déjà, je tourne dans ma tête un plan pour l'avenir de cet enfant, mais le projet est si hardi et fantastique que je n'ose me lancer avant que tu ne m'aies donné le droit d'agir librement. En août, elle m'écrivit encore de Sèvres, où elle s'était établie pour les mois d'été avec sa petite fille et quelques amis russes. Je viens de recevoir une lettre de Gusta qui me dit que je te trouverai peut-être à mon retour en Suède. Je dois avouer que je suis assez égoïste pour m'en réjouir de tout mon cœur. Je suis impatiente de savoir ce que tu écris maintenant. Pour ma part, il y a tant de choses que je voudrais te montrer et te communiquer. Les sujets de roman ne m'ont jusqu'ici jamais manqué, Dieu merci. Mais pour le moment, ma tête est absolument en fermentation. J'ai terminé mes souvenirs d'enfance. J'ai écrit l'introduction de Fait Victis et j'ai commencé en outre deux nouvelles. Dieu sait si j'aurai le temps de terminer tout cela. 13. Activité littéraire. Notre séjour à Paris. Au milieu de septembre, Sophie revint à Stockholm et nous nous revîmes après une séparation de près de 2 ans. Je la trouvais très changée. Sa vivacité, sa verve étincelante, avaient presque entièrement disparu. La petite ride du front s'était accentuée, la physionomie était sombre et distraite, et les yeux eux-mêmes, qui faisaient la principale beauté de cette physionomie, avaient perdu leur brillant éclat. Ils semblaient fatigués. Le léger strabisme du regard se remarquait plus qu'auparavant. Comme toujours, Sophie parvenait à cacher la sombre disposition de son esprit et à se montrer en société ou avec des étrangers presque la même qu'autrefois. Elle prétendait même savoir par expérience que lorsqu'elle se sentait intérieurement le plus déchirée, on disait autour d'elle « Madame Kowalewski s'est montrée remarquablement gaie et brillante aujourd'hui ». Mais pour nous qui lui tenions de près, le changement ne se faisait que trop sentir. Elle avait perdu le goût de la société, de la nôtre comme de celle des étrangers. Elle ne jouissait plus de ses loisirs et ne trouvait un peu de calme que dans un travail acharné, désespéré. Elle reprit ses cours par devoir, mais sans aucun intérêt. Le travail littéraire donnait seul quelque soulagement à cette torture de la pensée, peut-être parce qu'il touchait à certains points intimes de sa vie, peut-être aussi parce que ses excès antérieurs de travail l'avaient trop éprouvé pour lui permettre de reprendre une occupation scientifique quelconque. Elle remania d'abord complètement l'introduction de Ve Victis, qui fut traduite du manuscrit russe et publiée en suédois. Elle y fait une description du réveil de la nature au printemps, après son long sommeil d'hiver. Mais ce n'est pas la gloire du printemps qu'elle chante, comme la plupart de ceux qui le décrivent, c'est au contraire l'éloge de l'hiver, calme et apaisant, opposé au printemps qu'elle représente comme un être brutal et sensuel, qui n'éveille de grandes espérances que pour causer de grandes déceptions. Ce roman devait être en partie l'histoire de sa propre vie. Peu de femmes furent jamais plus fêtées et entourées, peu obtinrent d'aussi grands succès. Son roman devait cependant chanter le sort des vaincus, car en dépit de ses triomphes, elle se considérait elle-même comme vaincue dans la lutte pour le bonheur, et ses sympathies furent toujours pour les opprimés, jamais pour les vainqueurs. Cette profonde compassion pour la souffrance qui la caractérisait n'avait pas la charité chrétienne pour base. Elle ne partageait pas la douleur des autres pour la consoler par des sentiments élevés ou de belles pensées, mais pour en faire la sienne propre et se désespérer des cruautés de la vie avec ceux qu'elle en voyait souffrir. La religion grecque, celle de son enfance, et pour laquelle elle conservait une certaine piété, la touchait précisément parce qu'elle lui trouvait une commisération plus tendre envers les malheureux que les autres religions. Le même sentiment l'attirait de préférence en littérature, et certainement la littérature russe est celle qui a donné à la pitié sa plus haute expression. Sophie mit la dernière main à ses souvenirs d'enfance. Madame Edberg les traduisit en suédois sur le manuscrit, et le soir, dans nos réunions de famille, on en faisait la lecture chapitre par chapitre à mesure que la traduction se trouvait prête. Malgré la tristesse qui nous accablait toutes deux, notre ardeur au travail fut telle que cet automne se montra très productif. Nous ne travaillions cependant plus ensemble. J'écrivis en octobre et novembre 5 nouvelles que nous lûmes dans notre cercle intime en alternant avec les souvenirs de Sophie. Nous prenions plaisir réciproquement à nos travaux, nous faisions ensemble nos visites à nos éditeurs, nos livres, mon recueil, scènes de la vie réelle, et les sœurs Rajewski de Sophie parurent en même temps. C'était comme un renouveau des jours passés. Sophie eut d'abord l'intention de publier ses souvenirs sous la forme de fragments autobiographiques ce qu'elle fit ensuite en russe. Mais nous l'en détournâmes dès la lecture du premier chapitre en suédois, pensant que dans notre petit monde, il pourrait paraître étrange qu'un écrivain, si jeune encore, se prit ainsi à raconter au public les détails intimes de sa vie de famille. Plusieurs chapitres étaient déjà traduits, et le tout écrit en russe, quand nous proposâmes de changer « moi » en « Tania ». Il n'y avait pas d'autres observations à faire, car du reste nous étions dans l'admiration de l'avoir débuté en artiste consommé. Pendant que nos deux livres s'imprimaient, nous commençâmes ensemble un nouveau travail. Sophie, à son dernier voyage en Russie, avait trouvé parmi les papiers de sa sœur le manuscrit d'un drame écrit par celle-ci plusieurs années auparavant. Il avait alors éveillé l'admiration de quelques critiques littéraires de haute valeur en Russie. Mais ce drame n'était pas achevé pour la scène. Il contenait des parties très remarquables, des caractères admirablement dessinés, avec une grande profondeur de sentiments mélancoliques, mais la couleur locale russe en était si prononcée que lorsque Sophie m'en fit lecture, en le traduisant librement, je fus d'avis qu'il fallait le remanier complètement pour la scène suédoise. Depuis la mort de sa sœur, Sophie désirait vivement publier un ouvrage d'elle. Il lui semblait douloureux de penser que cette riche organisation eût été arrêtée en plein développement, et elle trouvait une sorte de consolation à se dire qu'après la mort, elle contribuerait à rendre sa sœur célèbre. Nous nous mîmes aussitôt à l'œuvre, discutant la pièce scène par scène, acte par acte, convenant à l'avance de ce qu'il fallait changer. Sophie fit un projet de remaniement en russe. Elle écrivit presque tout un acte sans mon aide. Ce fut son premier essai dramatique. Ensuite, elle me dicta de son mauvais suédois ce qu'elle avait écrit en russe. Je corrigeai, tout en écrivant sous sa dictée. Mais il était dit qu'aucune forme de collaboration ne devait nous réussir. Le nouveau drame, auquel, après bien des hésitations, nous avions trouvé ce titre un peu lourd, « Jusqu'à la mort et après la mort », fut lu par nous à un petit cercle d'amis littéraires. Sophie organisa cette lecture dans son salon rouge. Mais le jugement porté par nos amis ne fut guère encourageant. Ils trouvèrent le drame trop uniformément sombre de couleurs et ne pensèrent pas qu'il pût avoir de succès au théâtre. Au milieu de notre travail se posait pour nous une question personnelle, toujours mise à l'arrière-plan, mais qu'il s'agissait de décider maintenant que Noël approchait. Ni Sophie ni moi n'étions d'humeur à passer les fêtes de Noël à la maison. Stockholm nous brûlait à toutes deux sous les pieds pour des raisons différentes, et nous résolûmes de réaliser l'ancien projet que nous n'avions jamais pu exécuter, de voyager ensemble. Après quelques hésitations, nous nous décidâmes pour Paris, comme l'endroit où nous pourrions trouver toutes deux des relations littéraires et théâtrales utiles, et où nous échapperions plus aisément aux soucis de nos préoccupations intimes. Nous partîmes donc ensemble au commencement de décembre. Combien ce voyage fut différent de ce que nous avions rêvé. Mais nous savions d'avance que nous n'y trouverions aucun plaisir. C'était une dose de morphine destinée à engourdir nos pensées. Tristement assises en fagon, nous nous regardions, sentant notre propre inquiétude s'augmenter de celle qui se peignait sur le visage de l'autre. Nous restâmes quelques jours à Copenhague pour y voir des amis. Chacun y fut surpris du changement survenu en Sophie. Très amaigrie, le visage couvert de rides, les joues creuses, elle ne cessait de tousser. Elle avait eu l'influenza à Stockholm, où l'épidémie venait d'éclater, et s'était si peu soignée qu'il est même surprenant qu'elle ne fût pas dès lors sérieusement alitée. Un jour, une lettre l'ayant vivement agitée, elle sortit par un vent froid et une neige mouillée, à moitié vêtue, sans corset et en bottines légères, et resta toute fiévreuse, sans changer de vêtements, jusque fort avant dans la soirée. « Tu vois, me dit-elle, quand je la suppliais de se soigner, je n'ai même pas la chance de tomber gravement malade. Oh, ne crains rien, la vie me sera conservée, ce serait trop beau de s'en aller maintenant. Un pareil bonheur ne me tombera pas en partage. » Et pendant que nous restions assises, immobiles, dans notre coupé, voyageant nuit et jour, car nous avions pris la route directe de Copenhague à Paris, elle me disait par moments « Songe donc que deux trains pourraient se rencontrer et nous écraser. » Il arrive souvent des accidents de chemin de fer. Pourquoi n'y en aurait-il pas maintenant? Pourquoi le sort n'aurait-il pas quelque pitié de moi? Et pendant les longues journées, aussi bien que pendant les longues nuits, elle parlait sans cesse, d'elle-même, de sa vie, de sa destinée, s'adressant à elle-même plutôt qu'à moi, faisant une espèce de confession, s'accablant de reproches, cherchant à trouver la raison pour laquelle toujours elle devait souffrir, toujours être malheureuse, ne jamais obtenir de la vie ce qu'elle lui avait tant demandé, être aimée, vraiment, entièrement, exclusivement aimée. « Pourquoi ? Pourquoi personne ne peut-il m'aimer ? » répétait-elle. « Je pourrais donner plus que la plupart des femmes, et cependant les femmes les plus insignifiantes sont aimées, tandis que je ne le suis pas. » J'essayais de le lui expliquer. Elle exigeait trop et ne serait jamais satisfaite du sentiment qui tombe en partage à la plupart des femmes. Elle s'analysait trop. Elle se noyait en réflexion sur son propre moi. Elle n'avait pas l'attachement qui s'oublie, mais, au contraire, celui qui exige autant qu'il donne et qui tourmente sans cesse l'homme aimé par une critique rigoureuse de la qualité de ce qu'il donne. Elle convenait en partie de la justesse de mes raisonnements. Notre arrivée à Paris fut singulièrement triste. Cette arrivée si souvent entrevue sous les couleurs les plus riantes par notre imagination. Nous allâmes directement de la gare à la librairie Nielsen pour y prendre des lettres attendues avec impatience et que nous trouvâmes effectivement. Mais elles nous donnèrent beaucoup à penser à toutes deux. Je n'étais venu qu'une fois à Paris, en revenant de Londres en 1884, et tout à fait en passant, et je questionnais maintenant Sophie sur les édifices et les places publiques que nous apercevions sur notre route en nous rendant à notre hôtel dans le voisinage de la place de l'Étoile. Mais elle répondait impatiemment « Je ne sais pas, je ne reconnais rien. » Ni les Tuileries, ni la place de la Concorde, ni le palais de l'Industrie ne lui rappelaient le moindre souvenir et ne lui avaient laissé la moindre impression. Paris, ce grand et joyeux Paris, cette ville de prédilection où elle aurait toujours désiré vivre, n'était en ce moment pour elle qu'une agglomération morte de maisons et de rues. Car il n'y avait pas de lettre de lui, mais d'un de ses amis, et les nouvelles étaient peu satisfaisantes. Nous passâmes ainsi quelques semaines extrêmement agitées et fatigantes dans cette ville où, un an auparavant, Sophie avait été accablée de flatteries et de louanges et qui semblait déjà l'avoir oubliée. Elle avait eu son quart d'heure. Nous rendîmes visite aux amis de Sophie et aux miens et fîmes de nouvelles connaissances. Du matin au soir, nous étions en mouvement, mais pas à la façon des touristes, car je ne vis rien de la ville et de ses monuments, pas même la tour Eiffel. La seule curiosité que nous pouvions artificiellement éveiller en nous fut consacrée à l'étude de la société et au théâtre. Nous nous laissions entraîner dans une sorte de tourbillon, car il fallait un stimulant à l'intérêt littéraire qui lui-même faiblissait. Notre cercle de connaissances se composait d'un mélange bigarré, mais intéressant, de nations et de types. Une famille israélite russe et une famille de la haute finance française dans le grand genre, habitant toutes deux des hôtels particuliers très aristocratiques, avec laquais en culotte courte et bas de soie, et tout le luxe aristocratique traditionnel. Des savants et des savantes suédois et russes, des émigrés polonais, des conspirateurs, des littérateurs français, et parmi les Scandinaves, Jonas Lee, Walter Runeberg, Knut Wicksell, Ida Eriksson et diverses autres personnalités intéressantes. Sophie rendit aussi visite aux coryphées de la science française et reçut quelques invitations, mais elles l'intéressèrent moins que l'année précédente, ayant tout autre chose en tête que les mathématiques. Parfois, dans un cercle particulièrement sympathique, Sophie ouvrait son cœur, comme jamais je ne le lui avais vu faire, excepté en tête-à-tête. Elle disait combien peu la vie, avec ses succès scientifiques stériles, la satisfaisait. Combien elle aurait échangé toute la célébrité qu'elle s'était acquise pour le sort de la femme la plus ordinaire, pourvu qu'elle fût entourée d'un petit nombre d'amis, aux yeux desquels elle fut la première. Mais, disait-elle avec amertume, on ne la croyait pas. Ses amis eux-mêmes la supposaient plus ambitieuse d'honneur que de tendresse, et riait lorsqu'elle prétendait le contraire, comme s'il s'agissait d'un de ses paradoxes habituels. Seul Jonas Lee la toucha presque aux larmes dans un toast qu'il lui adressa et où elle sentit qu'elle avait été comprise. Ce fut un jour, le plus agréable de tout ce que nous passâmes à Paris, où Jonas Lee nous invita à dîner chez lui avec Grieg et sa femme, qui venaient aussi d'obtenir un véritable triomphe. Ce dîner eut cet indéfinissable air de fête que prend une petite réunion où tous sont heureux de se revoir, où on se sent compris et apprécié les uns des autres. Jonas Lee était en verve. Il porta, l'un après l'autre, plusieurs toasts chaleureux, pleins de fantaisie, un peu obscurs et confus comme d'habitude, mais charmants par leur cordialité et leur à-propos, autant que par la couleur poétique répandue sur toutes ses paroles. Il parla de Sophie, non pas comme d'une célébrité de la science, ni même comme d'un écrivain de talent. Il ne parla que de la petite Tania Rajewski, qu'il avait appris à tant aimer, pour laquelle il éprouvait tant de sympathie. Il croyait avoir si bien compris cette petite fille, dont le besoin de tendresse n'était compris de personne. Il doutait même que la vie l'eût comprise, car d'après ce qu'il avait appris par la suite, elle l'avait comblée de tous les dons, sans que Tania s'en fût souciée. Lui avait donné le succès, la célébrité, la gloire, tandis que la petite fille restait là, dans l'attente, avec ses grands yeux tendres et ses petites mains tendues et vides. Que veut-elle donc, la petite fille? Elle voudrait bien qu'une main amie lui donnât une orange. « Merci, monsieur Lee, » s'écria Sophie d'une voix émue, retenant à peine ses larmes. « On m'a porté bien des toasts dans ma vie, jamais d'aussi beau. » Elle n'en put dire davantage et se rassit pour noyer ses larmes dans un grand verre d'eau. En quittant Lee, elle était mieux disposée qu'elle ne l'avait encore été depuis son arrivée à Paris. Quelqu'un la comprenait donc. Il ne savait cependant rien de sa vie intime. Il ne l'avait vue que deux ou trois fois, mais au travers de son livre, il avait jeté un regard plus profond dans sa vie intérieure que tant d'amis qui la connaissaient depuis des années. Il y avait donc quelque joie à écrire. L'existence avait donc quelque valeur. En sortant de chez lui, nous devions nous rendre dans une autre maison et ne comptions pas rentrer chez nous. Mais dans son attente d'une lettre, attente continuelle, de chaque jour, de chaque heure, Sophie ne pouvait pas rester longtemps dehors. Nous fîmes donc un détour jusqu'à l'hôtel, pour faire au portier l'éternelle question « Y a-t-il une lettre ?» Le moment d'après, Sophie s'était emparée d'une lettre déposée à notre numéro et montait précipitamment l'escalier qui menait à nos chambres. Je montais lentement les quatre étages pour me rendre directement à la mienne afin de ne pas la gêner. Mais elle entra aussitôt chez moi, me sauta au cou en pleurant, en riant, se mit à danser avec moi, puis tombant épuisée sur un canapé, elle cria presque « mon Dieu, quel bonheur! Je ne pourrai jamais le supporter, j'en mourrai, quel bonheur !» La lettre expliquait un malheureux malentendu dont elle avait souffert les derniers mois, au point de devenir l'ombre d'elle-même. Le lendemain soir, elle quittait Paris pour rejoindre celui dont toute sa destinée dépendait.